Merci Henri pour cette introduction sur les femmes. Je pensais suivre ce qu'on m'avait appris dans mon église, que la femme se taise dans l'assemblée. Et les femmes à gauche, les hommes à droite. Oui, mais c'était pour la beauté des chants. Oui, ça c'est toutes des excuses. Enfin, je crois qu'un jour, je vais vraiment me pencher sur ce sujet. Si vous relisez la généalogie de l'évangile de Matthieu, vous trouvez une généalogie avec 3 fois 14 générations. Et dans cette généalogie, il y a 5 femmes. Étonnamment, il y a 5 femmes. Bon, c'était un peu pour dire qu'à l'époque, quand même, comme Henri nous l'a rappelé, les femmes, elles devaient se taire et faire des enfants, et c'est tout. Rien, quoi, de rien faire d'autre. Mais ici, on trouve 5 femmes. Mais qui ont quand même donné des descendances de mâles. 5 femmes citées, dont Tamar, veuve qui se déguise et est prise pour une prostituée par son beau-père Judas, fils de Jacob, qui lui donnera des jumeaux, je vous cite seulement. Il y a Rahab, la prostituée cananéenne, qui échappe miraculeusement à la destruction de Jéricho, et qui se joindra aux Israélites et deviendra ainsi la mère d'un ancêtre du roi David. Il y a Ruth, qui était Moabite. Moab était le fils de la fille aînée de Lot, qu'elle conçut avec son propre père, alors qu'il était ivre. La femme d'Uri aussi, qui sera convoitée par le roi David, qui la prendra pour femme après avoir fait tuer son mari. Et il y a Marie. La mère de Jésus. Ces 5 femmes, malgré leurs mésaventures, qui ne sont pas tristes, sont des perles aux yeux du Créateur, qui est fondateur du plan du salut. Il a utilisé 5 femmes pour en arriver à Jésus-Christ. Donc la femme n'est pas n'importe quoi. Elle est là. Elle a son importance. Mais celle qui va venir mon attention aujourd'hui, c'est Marie. Marie. Et je vous invite à lire dans Luc 1, l'évangile de Luc, chapitre 1, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Prions. Père éternel, nous te bénissons parce que tu n'as pas voulu que ta parole soit que des hommes. Elle est aussi passée par des femmes. Le plan du salut est arrivé par Marie. Merci. Merci d'avoir été jusqu'au bout et de ne pas avoir fait de différence. Seigneur, nous avons besoin autant des hommes qu'autant de femmes, Seigneur. Merci parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont à nos côtés. Comme notre frère nous l'a rappelé, elles sont apparemment complémentaires. Mais ta parole dit que tu as fait un vis-à-vis. Tu les as fait comme nous, pour être ensemble. Seigneur, encore une fois, qu'à toi revienne toute la gloire de cette merveilleuse création, Seigneur, et de ce plan de salut. Puissions-nous passer ce moment en ta présence et que nous puissions encore entendre ta voix qui nous parle. Amen. Quelle joie pour un père d'annoncer la venue d'un fils. Quelle excitation quand on apprend qu'une naissance approche. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans le cas, pas ma femme évidemment, mais nous allons être encore une fois papy pour la deuxième fois. Dans notre récit, c'est Dieu lui-même qui annonce la naissance de son propre fils. C'est le Père. Oui, le Père annonce la naissance du Fils. Et c'est ce que nous allons partager. Du côté de la mère, Marie, elle est juste citée dans l'évangile de Matthieu et elle est mise en scène dans l'autre évangile de Luc, dans l'ombre de son fiancé Joseph. Vous allez, d'un côté, elle est mise en un peu plus haut, dans l'autre évangile, Joseph. C'est lui qui reçoit les annonces de l'ange. Dans Luc, cette jeune fille prend beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance parce que l'évangéliste lui donne son identité. Le nom de la Vierge était Marie. Elle a un nom, elle s'appelle Marie. Et sa mission, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'évangile font de Marie une femme unique. Unique en effet parce que elle seule a vécu ce qu'elle a vécu. Personne d'autre n'a vécu la joie d'être enceinte par le Saint-Esprit et de donner naissance au Sauveur du monde. D'autre part, l'Écriture montre son caractère unique. Dans notre récit de l'Annonciation que nous avons lu, c'est le message qui prime plutôt que la vue. Elle n'a pas peur de l'ange, apparemment. C'est ce qu'il trouve, c'est ce qu'il dit. Il dit, et elle est troublée. Ici, tout est centré sur la parole, tout est centré sur le message, sur la révélation de Dieu, Dieu qui vient rejoindre l'histoire d'une simple jeune fille de Nazareth. Dans la parole de l'ange qui répond à sa question, comment ça se fera-t-il? La puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Ça nous fait un peu penser à cette puissance qui est venue couvrir le tabernacle, qui est venue couvrir Jésus dans la transfiguration. Cette puissance de Dieu totale. Un peu plus loin, dans l'évangile, l'accueil à Élisabeth, toutes te diront bénie. Toutes les femmes de la terre te diront bénie. Nous voyons que Élisabeth est inspirée par le Saint-Esprit et que c'est là aussi un signe de Dieu. Et Marie elle-même est consciente. Elle dira en Luc 1, 48, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est pas que c'est pris la grosse tête, non. Elle était consciente qu'elle était utilisée par Dieu. Mais Marie est une femme ordinaire dans son corps de femme. Mais dans son esprit, elle est unique. Et en lisant ce qu'on appelle aussi le Magnificat, on en fait énormément de musique avec ça, on se rend compte qu'elle connaissait la parole de Dieu. Elle connaissait les prophéties. Tout simplement, elle connaissait sa Bible. Elle avait lu la Torah, ou elle avait bien écouté en tout cas. Je suis la servante du Seigneur. Il fallait qu'elle connaisse quelque chose de Dieu et d'être prête pour répondre simplement « Je suis la servante du Seigneur ». Ou alors, imaginez qu'elle n'aurait pas connu. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'attends rien, moi. Elle connaît sa Bible et elle attend la venue du Messie. Elle l'attend, comme tout le monde. Et puis je me suis arrêté, j'ai dit « Et nous, épouses de Jésus-Christ, temple du Saint-Esprit, sommes-nous dans l'attente de sa venue, de son retour annoncé? Sommes-nous encore tellement prêts, tellement sur la sellette que si Dieu nous surprenait, est-ce que nous pourrions immédiatement dire « Je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur ». Imaginez qu'il rentre maintenant. Il faut quelqu'un d'urgence. Qui ? Je suis la servante du Seigneur. Ou alors, on attend peut-être encore, on est peut-être en train de regarder là, oh Seigneur, t'es monté au ciel, quand est-ce que tu vas revenir? Ou alors, peut-être, comme Victor nous l'a rappelé la semaine dernière, on attend les signes des temps. Il faut regarder ces signes des temps. Mais peut-être qu'on est à les attendre et à regarder les pèlerins. Il faut connaître les signes des temps. Mais c'est celui qu'on attend. On n'attend pas les signes. On attend notre Sauveur qui va revenir. Mais sommes-nous prêts? Je me suis posé la question, est-ce que je connais suffisamment tout ce que Dieu a dit dans sa parole pour l'attendre maintenant? Et je repense à Victor qui dit, connaissez-vous les signes des temps? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je connais suffisamment ma Bible? Dieu cherche un homme, dira le prophète Ézéchiel. Un homme, pas une femme. Et il poursuit, mais je n'en trouve pas. C'est grave quand même. Dieu cherche un homme et il n'en trouve pas. Heureusement, dans son plan merveilleux de Dieu, il a trouvé une femme. Il a trouvé une femme. Une femme qui a répondu présent. Je suis la servante du Seigneur. On ne sait pas grand-chose sur l'accouchement de Marie. Tout ce qui nous est dit, elle enfanta son fils premier-né et l'homme Maillotin lui coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Marie agit toute seule. Comment c'est arrivé? Naissance virginale, naissance sans douleur, on ne sait pas. On n'a pas de détails. On sait que dans les traditions juives, il paraîtrait que les saintes femmes accouchaient sans douleur, comme la mère de Moïse y paraît. Tradition. La Bible reste muette sur cette naissance exceptionnelle sur terre. Par contre, le ciel, lui, se réjouit. Le ciel se réjouit, fait éclater une chorale extraordinaire. Et on lit dans Luc, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu, disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Le ciel crie. Quelle joie. Mais si Luc avait éventuellement voulu évoquer une naissance sans souillure pour Marie, il n'aurait certainement pas parlé de leur purification. Selon la loi, après la circoncision de Jésus et avant la présentation au temple, il parle de la purification. Et dans les versets 4 du chapitre 2, l'évangéliste nous décrit que la loi prescrit comme sacrifice 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons. Il fallait absolument, pour purifier la femme, imaginez, dire l'accouchement. C'était la loi. La loi disait, elle sera impure pendant 7 jours et devra rester 33 jours à se purifier de son sang. 33 jours à la maison sans rien faire. Marie, si unique soit-elle, n'a pas bénéficié d'un accouchement différent d'une autre femme. Rappelons-nous, Galates 4:4 nous dit, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Tout simplement. Marie était sous la loi. Et signifie, évidemment, que nous sommes toujours dans le péché. Et que selon la Genèse, la femme accouchera avec douleur. Les conséquences du péché. Ouais, vous allez me dire, et l'homme alors? Ouais, mais l'homme, tu as gagné ton pain à la sueur de ton front. Il y a un juste équilibre. Dieu n'a pas fait plus pour l'un que pour l'autre. Il ne peut pas faire accoucher un homme. Mais Dieu n'a pas fait de différence. La naissance ne passera pas non plus dans un grand hôpital entouré de médecins et d'infirmières compétentes. Elle se fera dans la simplicité d'une crèche, représentant bien l'humilité de Marie, prête à tout, pour donner naissance à ses sauveurs. Mais hélas, Marie ne sera pas à sa dernière souffrance. Siméon, poussé par l'Esprit, lui annoncera la mission de l'enfant et ses conséquences sur l'âme de sa mère. Voilà ce qu'on lit dans Luc 2, versets 34-35. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même, Marie. Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Une épée te percera le cœur. Autrement dit, cet enfant, le Fils du Très-Haut, le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, t'apportera de la tristesse, de la souffrance. Tout enfant, vous savez, apporte son lot de joie, mais aussi de souffrance. On ne peut pas prévoir ce qui va devenir, on ne peut pas prévoir son avenir, s'il sera ingénieur ou balayeur de rue, s'il reprendra l'entreprise familiale. Peut-être que Joseph aurait espéré que Jésus reprenne la menuiserie. C'était quand même le fils du charpentier, il avait déjà le nom, fils du charpentier. Non, on ne peut pas dire, il n'y a pas d'école pour être parent. Pour faire un enfant, 30 secondes. Pour être génitrice, faut quand même un peu plus long, 9 mois. Mais pour être père et mère, toute une vie, et encore, c'est d'un coup assez. Il n'y a pas d'école pour être parent. Mais Marie apprendra à être mère. Mère avec ses joies. Plusieurs passages nous décrivent quand même un Jésus obéissant. Il grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, dit Luc 2, 51-52. Mais elle va souffrir. Nous avons l'évangile complet, tout est marqué, mais elle n'a que l'Ancien Testament. Ce qui va arriver, elle est là au milieu, ce qui va arriver, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que elle va souffrir, que quand Jésus aura 12 ans, on va chercher après, d'imaginer déjà la panique. Il est où? Qu'est-ce qu'il lui fait? Faut que je m'occupe des affaires de mon père. Elle ne sait pas non plus que, dès le début de son ministère à Cana, elle sera remise gentiment à place par son fils, et qui, selon Louis II, traduit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Déjà ça, en français, ça tombe déjà... Le texte grec va un petit peu plus loin, il dit « Ça veut dire quoi à moi et à toi, femme ?» Donc il met quand même sur un pied d'égalité, mais en disant « Pourquoi est-ce que tu nous mets, nous impliques dans cette histoire, quoi ?» Il met sa mère sur pied d'égalité avec lui, mais « Pourquoi tu nous impliques là-dedans, quoi ? Arrête !» C'était courant d'utiliser cette expression. Et en quoi ça nous concerne, toi et moi, nous deux? Ou alors, encore, on viendra dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, et lui de répondre, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Bon, sympa pour sa mère, quand même, hein? Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va transpercer l'âme de Marie? Ce qui va percer le cœur d'une mère ou d'un père, c'est pas spécialement non plus les paroles incisives, mais c'est parfois les actes que font subir les enfants, qu'ils posent, qu'ils font. Que dire à une maman qui vient d'apprendre que sa fille vient d'avorter? Que faire devant l'emprise, la drogue sur les enfants? Que dire de nos enfants qui ne viennent pas à l'église? Quel réconfort apporter aux parents dont le fils divorce d'une femme pour se joindre à un homme, etc., etc. Ces actes que nos enfants posent. Quelle est cette épée qui transpercera le cœur de Marie? Le ministère de Jésus face à Marie débute par cette phrase, aux noces de Cana. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et elle se terminera par cette phrase, « Femme, voilà ton fils. » Nous lisons dans Jean 19, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez elle. Et entre ces deux mots, femme, nous avons tout le ministère terrestre de Jésus. C'est comme si c'était vraiment un encadrement, comme si l'auteur avait voulu encadrer le ministère de Jésus par sa mère qui l'a porté jusqu'à sa mort, jusqu'à cette fameuse heure annoncée. De Cana à la croix, les évangiles ne nous rapportent rien d'autre. Il est donc difficile parfois d'établir les liens profonds que Jésus a avec sa mère. Est-ce que maman, je t'aime? Peut-être, on ne sait pas. Son ministère s'est déroulé sans la moindre influence de Marie. Elle l'a suivi. La croix au pied duquel elle sera présente, sera sans doute pour elle. Cette suprême épreuve qu'en tant que maman, perdant un fils terrestre, mais la foi verra vraiment l'accomplissement de cette heure annoncée. Elle se souviendra certainement de cette prophétie. Une épée te transpercera le cœur, l'âme, à la croix. La croix, scandale pour les juifs et folie pour les païens, nous dira l'apôtre Paul qui rejoint un peu Siméon, face à ce signe qui provoquera la contradiction. Parlez encore de la croix maintenant, vous verrez. Cette épée qui transpercera le cœur de Marie, cette croix est quand même le signe de la bonne nouvelle. Marie a transmis aussi la bonne nouvelle. Christ meurt pour les péchés du monde. À la croix, Dieu devient faible par amour pour les hommes. À la croix, meurt un innocent. Dieu conçoit cette erreur judiciaire pour proclamer la bonne nouvelle. On tue un innocent pour une bonne nouvelle. Quand même bizarre, notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est amour? La bonne nouvelle n'est pas que Jésus meurt, évidemment, mais que le pécheur vive. La bonne nouvelle, c'est que La croix n'est pas la fin, mais est réellement un commencement. La bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Oh, cette épée a transpercé le cœur de Marie. Mais elle a ouvert la porte au salut du monde. Étrangement, si on parle de la résurrection, Marie n'y est pas. Marie n'est pas à la résurrection, elle est la grande absente. Les premiers témoins, comme Henri nous l'a rappelé, sont des femmes, mais elle n'y est pas. Les récits nous rapportent que les visites au tombeau ont pour le but d'embaumer le corps, pas de vérifier s'il est toujours là. Ils allaient embaumer le corps. Il n'avait pas dit, on va aller voir, c'est là, mais il a dit, 3 jours après, il allait ressusciter, on va aller voir. Non, il est mort. On va l'embaumer. C'est Pierre qui viendra constater seulement après les dires des femmes. Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres étaient avec ces femmes, mais ne fait mention nulle part. Marie de Nazareth, mère de Jésus, elle n'est pas là. Nous n'avons pas plus d'indications de la présence de Marie à l'ascension. Elle n'est pas là. Peut-être. Elle n'est pas mentionnée, en tout cas. On ne sait pas si Jésus a repris contact avec sa mère entre les deux. Rien ne nous est dit. Nul ne le sait. Ce que Luc nous rapporte dans les actes est quand même primordial. Dans la compréhension de la foi de Marie. En acte 1,14, nous lisons « Tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. » Elle est là, avec ses frères. Marie est présente dans l'attente de la Pentecôte. On dirait qu'elle attend tout le temps cette dame. Mais elle sait. Elle sait pourquoi elle attend. Marie est présente. Le verset 1 du chapitre 2 des actes reprend la même expression. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ce n'est pas dire qu'on y va au-delà du texte si on dit que Marie est avec eux. L'aurore de l'Église annoncée par Jésus à Pierre est bien réelle. À l'effusion du Saint-Esprit, Marie devient, comme Pierre et les autres, fils et fille de Dieu, sœur et frère en Christ. En tout cas, Marie a pris en toute simplicité sa place dans la communauté des chrétiens, les disciples de son Fils ressuscité. La bonne nouvelle qui, selon l'ange, devait être pour tout le peuple un sujet de joie sera prêché au monde entier. Et dans le ciel, la joie d'un seul pécheur qui se repent. De nouveau, quand Jésus est né, ah, un seul pécheur qui se repent, c'est gloire à Dieu. Il y a encore des conversions maintenant. Qu'est-ce que ça doit être là-haut? Ils doivent chanter tout le temps. Christ est venu. Le ciel a rejoint la terre. Le Très-Haut a surpris l'homme en s'approchant de lui par une simple femme. En conclusion de cette parole d'une jeune vierge de Nazareth nommée Marie, « Je suis la servante du Seigneur » découlera une vie de joie. De cette prophétie, apparemment d'une mauvaise nouvelle, découlera une vie de souffrance. Mais de ces moments de souffrance intense qui traversera l'âme de Marie, découlera une vie de foi, une vie de salut. Et dans l'attente du Messie décrit dans l'Ancien Testament, découlera une attente par la promesse de l'Esprit Saint. Et on pourrait poser la question, et si Marie revenait parmi nous, je pense qu'elle serait la première à attendre le retour de son Fils. Elle serait là de nouveau, en prière avec nous. On l'attend. Je suis la servante du Seigneur. Je vous signale quand même que le Seigneur, c'est son Fils. Ce n'est pas pris la grosse tête. Je suis la servante du Seigneur. Elle nous rejoint dans le service. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Marie n'est pas plus grand que son maître. Elle a souffert. Jésus a dit, tout disciple sera comme son maître. Vous vous rappelez les prédications dernières que j'ai faites sur le serviteur? Elle a accompli une grande mission. Jésus a dit, vous ferez les plus grandes choses. Elle a vu la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a vécu tout ça. Marie, c'est la grâce, c'est la simplicité, c'est la foi, c'est la connaissance des Écritures, celle qui a montré par sa vie comment suivre son Fils. Mais qu'ils en plus, lors des noces de Cana, nous a donné la super prédication, mais la plus courte. Parlant au serviteur, elle dira, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce qu'on essaie, parfois en prédication, de dire. Faites ce qu'il vous dira. C'est écrit dans la parole. Jésus a dit, faites-le. Seule prédication. Faites tout ce qu'il vous dira. Personnellement, mon vœu en quittant ce temple, c'est que vous puissiez regarder Marie, pas comme la sainte du monde, la mère du monde, ou la mère de Dieu, si, la mère de Dieu Fils. Protestant, parfois, ça choque. Mais qu'on voit Marie comme un exemple de vie consacrée totalement, totalement à Jésus-Christ, sans oublier que, n'oubliez pas, que sa mère et ses frères sont ceux qui font sa volonté. Faites tout ce qu'il vous dira. Puissions-nous répondre, je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur. Amen. Père éternel, nous te remercions pour cet exemple. Tu aurais pu faire simplement naître ton fils comme ça, sans rien dire. Mais tu as voulu que cette femme soit mise à l'honneur. Seigneur, te bénissons pour les femmes que nous as données, Seigneur. Te demandons vraiment de les bénir et que nous puissions être, nous aussi, des témoins avec elles, en couple, en église, pour ta gloire. Amen.